Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord remercier les panélistes pour leur excellente présentation. Étant donné que c'est la première fois que la Norvège prend la parole, nous aimerions aussi remercier l'ambassadeur Biantino pour ses efforts et pour diriger ces discussions et pour un document très intéressant qui nous a été distribué avant la réunion. Je n'ai pas de questions spécifiques à poser, mais j'aimerais partager avec vous notre point de vue sur nos préoccupations en rapport avec les salaires et surtout les défis au droit humanitaire international. La possibilité de développement de systèmes d'armes qui, une fois activés, pourraient sélectionner et toucher des cibles sans l'intervention de l'homme pose des questions humanitaires et éthiques. Juridique et éthique, plusieurs ont été déjà illustrés par les exemples donnés par les panélistes et les documents de travail qui nous ont été distribués. La Norvège n'est pas encore arrivée à des conclusions sur la définition des salaires. Toutefois, en termes généraux, en utilisant ce terme, on parle d'armes qui peuvent rechercher, identifier et prendre comme cible notamment des êtres humains sans l'intervention de l'homme. Et donc, ce sont des systèmes qui sont déjà utilisés, qui sont très autonomisés, mais ils fonctionnent néanmoins dans des limites temporelles et spatiales très limitées, donc ne peuvent pas être tout à fait catégorisé comme tel. Nous sommes en train d'obtenir des informations sur l'entente d'application de ces armes automatiques si elles devaient être utilisées dans des conflits armés. Cela étant dit, notre point de départ fondamental est que toutes les armes développées devraient pouvoir être utilisées de façon conforme au DHI et aussi au droit humanitaire international et du droit international des droits de l'homme. Et il faudrait aussi, dans le cadre des examens de l'article 36, de voir s'il est possible d'utiliser ces armes en conformité avec le DHI, surtout les règles fondamentales de distinction, de proportionnalité et de prudence. Par exemple, le DHI exige que les parties à un conflit armé fassent la distinction entre les personnes qui participent activement aux hostilités et ceux qui ne le font pas. Les attaques dirigées contre les civils qui ne participent pas activement aux hostilités ou contre des personnes blessées qui ne peuvent se défendre ou veulent se rendre ou d'autres groupes protégés sont interdites et pourraient constituer des crimes de guerre. Ces armes entièrement autonomes peuvent-elles distinguer entre un combattant et un civil? Peuvent-elles voir, par exemple, si un soldat est en train de se rendre avant de lancer une attaque? Le commandant doit aussi faire une évaluation de proportionnalité entre les dommages causés par rapport aux avantages militaires qu'il va en tirer. Un système SALA peut-il être programmé pour effectuer une analyse et un jugement aussi compliqué sans l'intervention de l'homme? En fait, beaucoup des règles de fond du DHI suivent en fait justement le principe de jugement humain. Pour ce qui est des préoccupations éthiques de ces armes qui peuvent cibler, il est difficile d'envisager comment est-ce que ces armes peuvent être conçues pour le faire dans le cadre des limites du DHI. Un autre défi intrinsèque, c'est d'assurer la responsabilité individuelle et des États en cas d'acte illicite. C'est la pierre angulaire du droit international moderne. Sans pouvoir empêcher donc ces armes, les robots ne peuvent bien sûr être tenus responsables moral ou éthique. Et compte tenu que les humains qui font fonctionner sont ceux qui font fonctionner ces systèmes, si on a affaire à une violation du droit due à ces robots, on peut se demander qui est responsable. Et cela est en fait constitue des éléments très importants dont il faut tenir compte. Comme nous l'avons entendu cette semaine, il ne s'agit que de quelques idées ou quelques problèmes dus à ces robots. Il faut continuer la discussion pour étudier tous ces défis aujourd'hui et demain. Alors que de nouvelles technologies se développent dans ce domaine, il est essentiel, comme l'exige déjà l'article 36, de veiller à ce que les règles de base du